Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis quelques mois, mon fil de publication sur Instagram a changé. J'ai croisé la route de plus en plus de comptes mis en valeur par des amis traitant d'éducation sexuelle à différents degrés. Ils s'appellent Tajoui, Gang du Clito, Jouissance Club, La Prédiction, Le Cul Nu. Ils sont tenus par des femmes, essentiellement. Elles y font œuvre à la fois de pédagogie, de réflexion sur des questions essentielles comme le désir, le consentement, la connaissance de nos corps et de ceux de nos partenaires. Si ces comptes se multiplient, c'est sans doute parce qu'il y a un manque à combler, un manque d'information, d'apprentissage des différentes façons de la sexualité. Pourtant, cet enseignement doit théoriquement faire partie du cursus de tous les élèves français, mais il reste dispensé de manière totalement disparate, d'où sans doute l'appétence grandissante des ados et des jeunes adultes pour les comptes que je citais à l'instant qui fédèrent des centaines de milliers d'abonnés. Le problème, c'est que les plateformes comme Instagram et les géants du net en général ont quelques petits réflexes pudibonds et ont tendance à sucrer les publications proposées à leur goût. Dès lors, que faire? Comment s'informer lorsqu'on est coincé entre un enseignement secondaire qui traite le sujet à la marge et des plateformes numériques un peu coincées sur les bords? L'éducation sexuelle est-elle vouée à rester un vœu pieux et une douce utopie? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cet épisode, je ne le pilote pas seul car j'ai une nouvelle fois la chance d'être accompagné par ma camarade Victoire Toyon. Salut Victoire.
Salut Thomas.
Ensemble, nous avons reçu la visite de la créatrice d'un des comptes Instagram que je citais en intro, l'illustratrice June, qui tient le compte Jouissance Club.
Son compte, c'est un mélange de dessins et de textes où il est question de plaisir, de consentement, de désir et d'anatomie. On a commencé par lui demander comment était née l'idée de ce compte Jouissance Club.
Il a été créé un jour complètement par hasard où je parlais à mon copain d'une zone dans mon vagin que j'aurais aimé qu'il atteigne. Et comme j'arrivais pas à lui expliquer, il comprenait rien, j'ai fait un dessin et je me suis dit, meilleure idée de ma vie, je vais essayer de récolter le plus de positions, de techniques possibles maintenant pour le mettre. C'était une évidence de mettre sur Instagram.
Est-ce que vous avez eu l'impression de répondre à un besoin de la part du public d'infos, justement, de contenu un peu précis, un peu peut-être innovant aussi dans la manière de le présenter sur toutes ces thématiques?
Oui, moi je le ressentais ce besoin en tout cas chez moi.
Ouais.
Parce que j'ai trouvé tout au long de ma vie que le manque de créativité au lit faisait cruellement défaut. Et oui, du coup, je l'ai fait d'abord pour moi.
Ouais.
J'avais envie de créer un mode d'emploi pour, pour que les mecs puissent me doigter. Voilà, je le dis.
Vous trouviez qu'il y avait un manque d'éducation sexuelle, y compris pour les adultes?
Ah oui, mais complètement. Moi, j'ai appris l'année dernière à quoi ressemblait le clitoris, donc j'ai 35 ans, pour info. Donc,
et ça oui, vous intéressait en plus?
Mais bien sûr, bien sûr. On n'a pas été informé, surtout sur le sexe féminin. Hein, c'est voilà, aujourd'hui on en parle un petit peu plus, mais il y a un gros manque d'informations. Vous savez pas tout le nombre de questions que je reçois par jour des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un clitoris, qui ne savent pas faire la distinction entre orgasme et jouissance, qui ne savent pas ce que c'est que plein de choses.
Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent?
Comment atteindre le point G? Alors ça me fait bien rire parce que...
C'est très vintage comme question.
C'est très vintage comme question, mais c'est des jeunes qui la posent. Du coup, je leur dis que le point G, c'est un concept qui j'aime bien appeler cette zone-là la zone rugueuse, parce que pour moi, c'est pas le point G, c'est pas un point, c'est pas un bouton, c'est une zone qui est derrière le clitoris et qui peut faire du bien en frottement, par pénétration, avec les doigts ou avec un sexe. Donc ça, voilà, c'est la question qu'on me pose assez fréquemment. Ce qui revient énormément, c'est est-ce que je suis normale?
Ouais.
Normale, pour les garçons ou pour les filles. On se demande tous si on est normal parce qu'on est habitué à regarder du porno. Et du coup, je crois que les gens sont en stress permanent de se dire « Ah, ma vulve est pas normale, ah, mon sexe bande pas assez fort, ah, enfin... » Et du coup, ben, ils viennent me demander des réponses et je leur réponds, mais oui, t'es normal, tout va bien.
Il y a un besoin de se réassurer du coup beaucoup de la part du public.
Oui, parce qu'il y a un culte de la performance qui est omniprésent aujourd'hui. Il faut le déconstruire.
Et de l'hétéronormativité.
La pornographie, c'est de la fiction, c'est extraordinaire, c'est des choses qu'on vivra probablement jamais, parce que c'est de la fiction. C'est comme regarder un film X-Men. C'est des choses qui... Voilà, donc il faut arrêter de se comparer à ces acteurs-là, c'est important. Et du coup, essayer d'éduquer autrement, de montrer du sexe autrement.
Pourtant, on dirait que la source d'information principale pour les jeunes, les plus jeunes notamment, c'est la pornographie. Mm-hmm. Et donc des comptes d'éducation sexuelle qui commencent à se créer comme le vôtre sur Instagram. Et pourtant, ces comptes-là sont censurés et sont fréquemment interdits.
Oui, parce qu'on parle crûment, hein. Enfin, faut le dire. Moi, j'emploie des termes très précis sur la sexualité, et oui, ça peut faire peur. Mais en fait, je pense que ces gens qui signalent nos comptes n'ont pas non plus envie de pornographie sur Instagram et signalent tous les comptes qui parlent probablement de cul. Je sais pas.
Oui, parce que c'est pas les plateformes elles-mêmes.
Ouais, comment ça se passe en fait.
On en parlait hors antenne. Ce sont pas les plateformes elles-mêmes qui sucrent de but en blanc. Ça répond à un signalement de plusieurs usagers.
D'un grand nombre d'usagers qui signalent un compte et qui se fait automatiquement supprimer sans vérification de la part d'Instagram. En fait, eux, ils vérifient après fois qu'il y a une fois que le propriétaire du compte fait recours.
Et du coup, pour le réactiver, il faut, on va dire, arguer du fait, prouver en tout cas que vous n'avez pas justement outrepassé ces règles.
Oui, exactement, il faut faire appel. Malheureusement, moi j'ai déjà fait appel parce que je me suis fait supprimer mon compte plusieurs fois. Les premières fois, il n'est jamais revenu parce que j'avais pas une communauté assez grande, je pense. Et puis je parlais de sexualité, donc je me suis dit, bon, ben oui, peut-être que je ne suis pas dans les règles, c'est vrai que peut-être que je vais un peu loin. Là, il y a toute une communauté qui s'est regroupée, qui ont créé le hashtag Sexuality is not dirty, qui a fait beaucoup, beaucoup de remue-ménage du coup, et qui, j'aime le penser que c'est grâce à ça que mon compte est revenu.
Il y a pas mal de comptes, justement, Victor le disait, qui se sont lancés sur Instagram, un peu sur ces territoires-là, sur l'éducation sexuelle de manière très, 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 très large. Vous échangez entre vous, ça vous arrive de communiquer entre vous ?
On a plusieurs fenêtres de conversation, on s'appelle les chaudières entre nous. Et oui, on échange beaucoup, 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 oui.
Et notamment sur ces questions de difficulté parfois de s'exprimer sur ces plateformes qui peuvent être un peu puritaines par certains aspects.
Ah ben en ce moment, c'est le topic. Ouais. Oui, mais c'est notre topic préféré. On en parle beaucoup. En fait, tous les jours, on s'envoie toutes les publications qui sont supprimées. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de publications qui sont supprimées, des posts de regard coupable, de la prédiction, plusieurs comptes. Et on se pose plein de questions et on essaie d'y répondre, on essaie d'écrire à Instagram pour savoir, avoir des réponses quoi, savoir ce qu'il faut faire.
Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous en avez des réponses ?
Pas trop. Pas trop, on va un peu plus fouiller, mais je pense qu'on en aura, oui, il faudra.
Est-ce qu'à terme, il va falloir potentiellement migrer vers une autre plateforme ou amener ce discours-là ailleurs ?
Mais où ?
C'est toute la
question. C'est la vraie question. Non, ouais. Je ne sais pas. Il n'y a aucune autre plateforme qui a cette portée-là, je crois.
Et qui surtout a cette facilité de communiquer à la fois en texte et en image.
Absolument. C'est ça. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais on n'a pas envie de renoncer à Instagram. Attention, nous, on a envie surtout de faire changer un petit peu la vision de la sexualité sur les réseaux. C'est pas sale, la sexualité. Au contraire, c'est naturel. Tout le monde le fait, même les oiseaux. Enfin, tout le monde. Même tes parents, tu vois. Donc, il faut en parler.
Ça
c'est important.
Jamais, ça n'est jamais arrivé.
Pour aller plus loin et surtout éviter d'aborder la vie intime de mes parents, nous avions envie d'entendre quelqu'un qui pratique l'éducation à la sexualité au quotidien. Et nous avons tout de suite pensé à Dr Capote.
Ça fait 20 ans que ce militant associatif anime des séances de prévention et d'éducation sexuelle dans le secondaire. Il est par ailleurs chroniqueur dans le magazine Cosette. Et ses textes viennent d'être réunis dans un livre, Génération Q, paru aux éditions La Ville Brûle.
Avec lui, nous avions envie d'ouvrir le vaste sujet de la difficulté de parler de sexe dans les salles de classe.
Alors, il faut savoir que c'est obligatoire. Depuis 2001, la loi prévoit des séances régulières tout au long de la scolarité, 3 séances par niveau, par an. Mais dans la réalité, elle est assez mal appliquée. Par exemple, une enquête menée en 2015 auprès de 3000 établissements scolaires montre que un quart des écoles, 4% des collèges et 11,3% des lycées déclarent n'avoir mis en place aucune action ou séance d'éducation sexuelle. C'est une enquête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Et avec Dr Capote, on a voulu savoir justement à quoi ça ressemble aujourd'hui un cours d'éducation sexuelle.
Ça dépend par qui il est fait. En général, on fait appel à des associations extérieures. Donc, en province, c'est beaucoup le planning familial. Bon, planning familial, c'est souvent collège. Et puis moi, je bosse pour une asso qui nous envoie plutôt dans les lycées et CFA, chez les 15-18. Alors, le cours d'éducation sexuelle, il a beaucoup bougé, en fait. Parce que moi, je pense que... Moi, quand j'ai démarré, du moins, on était dans quelque chose de très, très hygiéniste. La capote, quoi. C'était l'urgence du sida. Et du coup, c'était protection, infection sexuellement transmissible, contraception, avec des messages, effectivement, de protection, qui étaient, je pense, hyper anxiogènes, quand même. Il y avait leur raison, parce qu'on était dans l'urgence du sida. Mais c'est vrai que, petit à petit, on a un petit peu changé la donne. Et c'est vrai que, en travaillant plus sur la construction du jeune et entre autres la découverte de son corps et puis surtout la découverte des normes de société et des stéréotypes de genre fait que on travaille aujourd'hui beaucoup plus là-dessus et sur les vulnérabilités que ça engendre. Donc on travaille plus sur tout ce qui entoure la sexualité que véritablement l'acte sexuel en fait.
Et concrètement ça ressemble à quoi? C'est-à-dire il y a quoi comme outil, comme manière d'aborder la sexualité face à des ados?
Alors écoute, les outils, on bricole un peu tous un peu dans notre coin.
Ouais. Il n'y a pas de méthode unifiée, c'est un peu chacun sa sauce.
Il n'y a pas de manuel scolaire en fait d'éducation sexuelle.
Ouais, non, il n'y en a pas. D'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. La preuve, c'est qu'avec l'histoire du clitoris, la vraie taille du clitoris, je crois qu'il y a un seul manuel sur 10 qui l'a correctement représenté. Le clitoris en 3D, justement, de Ilfiu, ça a été une révolution pour nous, parce que c'est par exemple un outil qu'on utilise en disant voilà. Le clitoris, c'est comme ça, et ça permet d'embrayer souvent derrière sur effectivement la connaissance du corps et entre autres le sexe féminin qui est toujours les filles ont toujours une espèce de mood dégoût dès qu'on parle du sexe féminin, ce qui est pas du tout le cas des mecs quand on parle de leur sexe quoi. Donc déjà on a cette différence là. Moi je travaille beaucoup sur déjà dans un premier temps que ce soit très inclusif, donc je me sers de la licorne du genre qui a ses limites aussi, hein, mais qui permet d'entrée de jeu effectivement d'associer une identité de genre, l'expression du genre, mais aussi de parler de l'orientation sexuelle, ce qui fait que tout de suite, on inclut tout le monde.
C'est quoi la licorne sexuelle? La licorne de genre?
Oh, la licorne du genre, c'est un petit dessin autour de... T'as une licorne, en fait. Puis en fait, c'est divisé... On aborde plusieurs choses, l'identité de genre, et forcément, on peut aborder du coup la non-binarité, qui émerge quand même pas mal auprès des jeunes. Et puis, l'expression du genre, c'est intéressant à travailler, parce que moi, je leur dis souvent, je vous regarde, et je vais dire, toi, t'es une fille, toi, t'es un mec, mais en fonction de quoi? Quels critères? Et du coup, est-ce qu'on peut se tromper? Oui, je peux très bien avoir les cheveux très longs, ressembler à une fille, mais en fait, je ne suis pas une fille parce que j'ai un sexe génital de garçon, etc. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur l'apparence et en même temps, puis l'expression du genre, ça permet aussi de travailler sur... les territoires, en fait. Si une fille va sur le territoire des masculins, comment on la regarde? On va souvent parler d'elle comme d'un bonhomme, garçon manqué, ça reste encore assez présent. Et puis, si un mec va sur le territoire du féminin, là, effectivement, forcément, on va attaquer tout de suite son orientation sexuelle.
Vous savez, 20 ans que vous intervenez dans les établissements scolaires?
Ouais, un petit peu moins, enfin, pas loin.
Qu'est-ce qui a changé chez les jeunes que vous rencontrez? Est-ce que vous avez remarqué une évolution? Soit dans leur questionnement, dans leur représentation, des choses qui sont plus faciles aujourd'hui qu'avant ou au contraire plus difficiles?
Ah, y a des cycles. Bon, je pense que moi j'ai vu quand même arriver l'apport du numérique. Hein, l'air de rien, je fais un peu le vieux, mais c'est vrai que la révolution numérique, je pense qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu véritablement arriver et l'impact qu'elle a pu avoir sur les relations, sur la relation à l'autre, ne serait-ce que l'exhibition sur les réseaux sociaux. Quand je parle d'exhibition, parce que moi je fais une grosse différence entre ce que peuvent proposer les adultes sur les réseaux sociaux et puis l'impact que ça peut avoir et comment on gère effectivement son image avec les ados qui sont souvent des fois débordés par ce qu'ils peuvent mettre en ligne. Et
quand vous dites ce que proposent les adultes, c'est-à-dire l'accès facilité, on va dire, à du porno notamment?
Oui, pas que ça. En même temps, parce que je regardais l'autre jour des instagrammeuses dites influenceuses qui ont des tas de photos où elles sont en maillot de bain toute l'année, hiver comme été.
Oui, la sexualisation du corps accrue. On va dire.
donc qui ont le droit de gérer leur corps comme elles ont envie, bien évidemment, hein, mais en tant qu'adulte, j'ai pas le même regard qu'en tant que, qu'ado sur ce type de site. Forcément, il y aura une injonction à un type de beauté, un type de corps qui peut me poser problème, qui peut me mettre la pression, quoi.
Mais est-ce que vous les trouvez mieux informés ou moins bien informés qu'il y a 20 ans ?
Je pense qu'ils sont pas mal informés. Après, il faut faire le tri, quoi. Forcément, hein, Internet, c'est une source d'information fantastique, mais après, c'est comment on fait le tri. En journalisme, vous avez le même problème, hein, c'est autour des fake news. Forcément, nous, là-dessus aussi, c'est comment on dégoupille les choses, les informations qui circulent.
Il y a une problématique qui revient souvent quand on aborde ces questions-là, notamment vu sous l'angle du numérique, c'est qu'on a l'impression que, justement, c'est ce public-là, le public plus jeune, est partagé entre une grosse connaissance de pratiques très très adultes, pour le coup, qui vont jusqu'aux pratiques les plus extrêmes de la sexualité, vu l'accès hyper facile qu'on a à la pornographie grâce à Internet, et en même temps une grosse méconnaissance à la fois de leur corps, mais aussi des notions de désir, de consentement, et de choses assez basiques finalement, et que ces deux trucs-là rentrent en collision.
Ouais, c'est le grand écart. Moi, je trouve que c'est vraiment ça, c'est le grand écart pour eux. Beaucoup plus que pour ce que j'ai pu vivre, moi, à mon adolescence, je pense. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a toujours un apprentissage du corps et de son corps qui existe toujours. Et puis, en même temps, eux sont confrontés à énormément d'images du corps qui est mis en scène. Dans les réseaux sociaux, mais aussi, bien sûr, dans le porno, hein, qui est quand même très accessible. Puis, au-delà du porno, hein, ça peut aller jusqu'à, tu vois, à un moment donné, la star des jeunes, c'était le youtubeur, ça a démarré sur Snap, et puis youtubeur en même temps, c'était Amine Morito, le fameux, qui frappait les filles avec qui il était, la Kera Morito, donc la pute de Morito, et il la frappait avec tout un tas de choses, et ils connaissaient tous. Alors, quand j'en parlais avec des potes, mes enfants, ils connaissent pas ça, en fait, les gamins, tu les regardais, ils rigolaient parce qu'ils connaissaient. Donc, il y a un apport d'image qui est énorme, et en même temps, ils sont toujours des ados dans l'apprentissage de leur corps, ça n'a pas beaucoup changé. Et du coup, je pense que pour eux, c'est vraiment le grand écart. Ça peut être assez violent, effectivement, quand tu vas sur les sites porno, que tu vois la segmentation, en fait, être dans les menus, c'est impressionnant, en fait. Du coup, t'as une espèce de sexualité à la carte, quoi, qui est assez... qui peut être assez déstabilisante, quoi.
Mais donc, à la fois, ils sont confrontés à plein d'images, mais c'est vrai que vous, ce que vous rapportez dans vos chroniques, c'est qu'il y a quand même une méconnaissance de données anatomiques de base. Par exemple, vous expliquez qu'à chaque fois que vous parlez d'hymen, qu'est-ce que c'est l'hymen d'une femme, il y a une mythologie, vous avez vraiment des réponses qui paraissent stupéfiantes, quoi. C'est une poche de sang au fond de l'utérus, des trucs qui sont anatomiquement pas possibles. Donc, je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent passer autant de temps sur Internet et que tout est aussi disponible, enfin toutes les informations sont disponibles sur Internet et sembler aussi peu informé.
Je pense que l'anatomie, je pense qu'elle est abordée en quatrième je crois, ou cinquième, enfin bon, je parle dans l'éducation sexuelle, dans les cours, je sais pas, mais ouais, je crois que c'est le planning qu'il aborde en quatrième. Et puis, je pense qu'en quatrième, en fait, ils sont pas du tout dedans. Donc, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et c'est un peu zappé. Et puis, quand ils rentrent dans leur sexualité, je pense qu'ils s'intéressent plus aux pratiques, finalement, qu'à leur corps. Et la découverte du corps, elle va se faire progressivement dans la sexualité. Alors, c'est vrai que s'ils ont une relation qui dure un peu, bah, forcément, ça va peut-être plus facile pour aborder le plaisir et se découvrir, prendre le temps de se découvrir. Après, on a des âges où, effectivement, les amours sont fluctuants et que des fois, on prend pas le temps, effectivement, de se connaître bien, et qu'il y a une idée d'effectivement de performance, d'orgasme très rapide, et on oublie le corps. Bon, là, cette méconnaissance du corps, c'est pas neuf, hein. Déjà, le sexe féminin, il est hyper tabou depuis très longtemps. Le plaisir féminin est super tabou, on n'en parle pas, quoi. Moi, quand je parle de masturbation féminine, j'ai l'impression de passer pour un pervers pépère dans les classes, quoi. Le vieux qui parle de masturbation féminine, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Et je regarde les visages, c'est...
Ils sont horrifiés ou...
Il y a de la sidération, un peu, ouais. C'est de quoi il nous parle. Et des fois, j'ai eu des réponses assez étonnantes. Une fille qui disait, mais monsieur, c'est pas possible, on peut pas se masturber, on n'a pas de sexe. Puis elle s'est reprise. Mais dans sa tête, la masturbation, c'était effectivement uniquement le pénis, quoi.
Est-ce que c'est compliqué du point de vue de l'éducation nationale, de l'administration ou des établissements? Est-ce que c'est dur pas d'imposer, parce que c'est prévu dans la loi que cet enseignement existe, mais disons tout simplement d'exister dans l'enseignement?
Pour moi, c'est difficile de répondre, parce que du coup, quand je vais dans les lycées, c'est prévu, on est invité. Donc du coup, on se dit, bon, très bien, on force pas la porte. Je pense qu'il y a des lycées où on va pas, des établissements où on va pas, parce que soit il n'y a plus d'infirmières, sauf quand même le mettre en... Et moi, je suis en train de lire pas mal de choses là-dessus. On est en train, doucement mais sûrement, de vouloir externaliser la santé scolaire dans des centres qui seraient extérieurs au bahut. Je suis en train de creuser un peu le truc, parce que c'est pas très clair. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une idée. D'un côté, on nous dit, il faut de la santé sexuelle, de la santé même système général, une éducation à la santé dans les bahuts, et en même temps, on va pousser dehors les infirmières scolaires qui sont quand même porteuses de ces projets-là en général.
Et qui sont souvent le premier interlocuteur lorsqu'il y a un questionnement de la part des jeunes, en dehors des séances d'éducation.
Oui, bien sûr, quand tu fais une information de 2 heures, tout ne sort pas, et derrière, ça travaille, et puis la semaine qui suit, en général, ils ont beaucoup de passages à l'infirmerie, hein, forcément. Donc, il faut vraiment, leur présence, elle est super importante, et elles sont porteuses, en général, de tout ça. Donc, déjà, quand il y a plein d'infirmières, ou qu'elle est en partance, ou si on l'invite doucement à sortir de l'établissement, c'est clair qu'on ne va pas dans ce sens-là. Après, je pense que quand on comptabilise les heures de prévention, il y a les assos comme nous qui viennent effectivement de l'extérieur, mais il y a aussi des profs qui... alors, je ne sais pas si c'est comptabilisé, effectivement, mais il y a quand même des profs qui prennent sur eux, surtout les jeunes profs. On peut avoir très bien une prof de français qui fait bosser sur un texte LGBT américain, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, j'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps. Et du coup, ça déclenche des débats sur le sujet entre les jeunes, et on pourrait dire que ça fait partie finalement de ces séances d'éducation à la sexualité ou à la santé sexuelle, pour être plus global, quoi.
Mais ce qui ressort de notre discussion, là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de démarche unifiée. C'est que chacun fait un peu dans son coin, chacun fait un peu comme il peut, quelque part. Donc, ça dépend du bon vouloir des établissements, des profs, de la motivation des associations. Tout ça est très encore disparate.
Ouais, oui, et puis en plus, moi, je bosse en Ile-de-France, et je pense qu'en Ile-de-France, on est plutôt bien lotis.
Ouais.
Mais j'ai énormément, du coup, avec mon blog et puis le fait d'avoir un peu de visibilité avec mes chroniques dans Cosette, j'ai beaucoup de demandes qui viennent de province où, effectivement, il manque les associations survivent avec très peu d'argent et ont peu de bénévoles pour pouvoir aller dans les établissements scolaires, et elles manquent vraiment de financement et puis de personnel, quoi.
Si vous souhaitez pousser plus loin la réflexion et vous documenter aussi, on vous invite donc à lire le bouquin de Dr Capote, Génération Q. C'est dispo, on l'a dit, aux éditions La Ville Brûle.
Et puis allez faire un tour sur Instagram, vous aurez compris que là aussi, il y a plein de choses à apprendre.
Merci à June et Dr Capote pour leurs réponses, à ma camarade Victoire Toyon pour son aide et ses questions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.